Vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ sur terre. Donc, elle est avant tout un organisme vivant, un corps organisé, en quelque sorte, qui est soumis à celui qui en est la tête, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque membre dans le corps de Christ, et vous le savez, a son utilité. Aucun n'est inutile au corps, et ils sont tous interdépendants, unis par les liens de l'amour de Dieu. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Et même les plus faibles, il est écrit dans 1 Corinthiens 12, sont nécessaires. Alors quelqu'un peut très bien avoir l'impression qu'il n'a pas de capacité particulière dans le corps de Christ. Il n'empêche que s'il est en Christ, le chrétien à sa place, il est utile au corps, il en est un membre. Je pense que chacun, là, a besoin d'en être convaincu. Il est vital, même quelquefois, vous savez, de faire comme les disciples et d'apporter au Seigneur nos « nous n'avons que » ou « je n'ai que » 5 pains et 2 poissons, par exemple. « Je n'ai que ça, Seigneur. » Eh bien, c'est indispensable pour recevoir la mesure de grâce et d'esprit à laquelle, sans laquelle, pourrait dire, chaque membre ne peut rien. Nous avons besoin du secours du Seigneur. Alors, d'un autre côté, il faut que nous soyons conscients qu'il est impossible, on pourrait dire, de grandir spirituellement, nous, tout seuls, en quelque sorte. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir. Il faut que nous en soyons pleinement conscients. Le corps de Christ local est appelé à une croissance harmonieuse. L'épouse de Christ n'est pas appelée quand même à paraître difforme devant son Seigneur. Hein, c'est pas paraître avec une grande jambe et une toute petite de l'autre côté qui n'a pas grandi. Ou un bras qui pousse pas. Bon. L'Église de Jésus-Christ, elle est appelée à paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et surtout pas difforme. Et même irréprochable, irrépréhensible, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 27. C'est pourquoi nos progrès doivent être communautaires. C'est vraiment indispensable et ça va se voir. Alors, je vous propose 3 petites lectures dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er d'abord. Regardez où en étaient ces frères et sœurs-là. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail, remarquez bien, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Et après, au chapitre 4 et au verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Tiens. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Et deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Alors qu'est-ce que vous pensez des Thessaloniciens ? C'était pas mal quand même, ces frères et sœurs-là. Hein, quand même, c'était quand même quelque chose. Hein. Leur foi était une foi en action, basée sur la parole, sur le roc de la parole de Dieu. Leur espérance, c'était pas un vague espoir, mais une profonde certitude ancrée, on pourrait dire, en Jésus-Christ. Ancrée en Jésus-Christ. Et leur amour consistait pas seulement en paroles, hein, d'après ce que nous avons lu, mais en action et avec vérité. Le travail de leur amour, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, l'amour les poussait à l'action, c'était pas seulement des mots. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, avait-il des secrets pour progresser ainsi dans les voies de Dieu ? On se pose quand même des questions, hein. C'est quand même extraordinaire qu'on fasse, que l'apôtre Paul fasse autant d'éloges, les Thessaloniciens quand même. Hein. Nous pourrions méditer sur le verset d'ailleurs de 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Il y a quelque chose là qui est intéressant quand même. 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Eh oui, il y a là une des raisons de leur progression dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Ils s'encourageaient, ils se consolaient, ils se construisaient, ils se fortifiaient les uns les autres. Exhortez-vous, c'est parakaleo dans le grec, bien sûr. Semeur nous dit, a traduit comme ça, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Et vous le faites déjà, je crois. Amen. Bon ben, mais encouragez-vous, continuez, en quelque sorte. Hein, c'est ce que dit l'apôtre, hein. Ne vous arrêtez pas là. Continuez au contraire, comme vous le faites déjà. Alors s'exhorter, c'est quoi ? Bon, c'est apporter au frère, à la sœur, au prochain, déjà un encouragement. C'est apporter une consolation, une assistance, quelquefois même un sage avertissement, une aide. Le contraire, c'est décourager, dissuader, détourner de la bonne voie. Alors il est vital que nous nous encouragions à vivre l'évangile de Jésus-Christ, à mettre en pratique la parole de Dieu, et on pourrait dire à contempler Jésus. Amen. Il y avait des beaux chants ce matin où le nom de Jésus y était. Quelquefois, je suis un peu malheureux quand j'entends pas le nom de Jésus. Moi, le nom de Jésus, ça me fait du bien, je sais pas vous. Amen. Prononcez le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça nous fait du bien. Alors, dans l'église primitive, il y avait un homme qui s'appelait Joseph, et vous savez que les disciples lui avaient donné un surnom, Barnabas. Barnabas, fils d'exhortation, fils d'encouragement, de consolation. À la volonté de Dieu, vous le savez, c'est que nous soyons tous des Barnabas, les uns pour les autres pour les uns. Voilà. Or, c'est vrai que il faut arrêter avec la pensée du pasteur ou de l'ancien à tout faire. On ne vient pas dans l'église pour écouter un sermon seulement. Hein. On vient pour servir le Seigneur et servir nos frères et sœurs. Mais oui. On vient aussi. On ne vient pas occuper une chaise seulement, c'est sûr. La question se pose, est-ce que je suis un Barnabas ? Bon. Nous sommes appelés, c'est vrai, à dépasser quand même déjà, pour reprendre cette pensée-là, le stade de la pitié. Ah, pitié des gens, c'est pas mal. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, le Barnabas, en fait, il est appelé à dépasser ce stade et à s'impliquer davantage dans l'affliction des autres, à la ressentir davantage, d'ailleurs. Parce que c'est quand même écrit, si un membre souffre, les autres membres souffrent. Oui. Alors, si je ne souffre pas quand les autres souffrent, ça pose un problème quand même. J'ai lieu de m'interroger quand même sur mon état de santé spirituelle. Alors, je ne vais pas dire, bien sûr, bon, quand je vois l'affliction du frère ou de la sœur untel, bah, moi je suis content, mais le Seigneur me bénit, moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est pas bon, hein. Vous êtes, c'est pas normal d'être centré sur soi-même et de considérer les autres comme nos serviteurs. Bien sûr, on est tous serviteurs les uns des autres. Nous sommes sauvés pour servir. D'accord ? Nous sommes bénis. Pour quoi faire ? Pour bénir. Nous sommes consolés pour
consoler.
Bah, vous savez tout déjà. Encouragés. Pour encourager les autres, bien sûr. Instruit, pour quoi faire ? Pour instruire les autres, on est bien d'accord. Édifié, pour édifier les autres. Fortifié, pour fortifier les autres. D'accord. C'est comme ça dans la vie chrétienne, c'est comme ça que le Seigneur le désire. La bénédiction doit jamais s'arrêter à nous-mêmes. Hein ? Si le Seigneur me bénit, c'est pour que je bénisse les autres. Voilà. Alors on pourrait voir quelques, simplement, hein, quelques moyens d'exhortation dans le cadre de l'Assemblée, dans le cadre de nos rassemblements. D'abord, c'est vrai qu'il y a la prédication. Elle en est un peu le centre, elle est le centre de la réunion, du rassemblement. Quand même, je remarque quand même que le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de l'Assemblée, c'est synagogué. Hein. Bon, moi j'ai quelques problèmes des fois avec... L'Internet, là, les rassemblements sur Internet, là, ça. C'est chacun, nous on est des vieux, on a du mal à s'adapter. Mais quand même, le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, sont synagogués en mon nom. Quand même, c'est bien. Or, les Barnabas, en fait, ceux qui sont appelés à être des Barnabas pour prêcher la parole, le Seigneur leur dit, par exemple, à un jeune de Timothée 4.2, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Et il lui dit, prêche la parole. La parole, ça montre qui c'est. Hein. C'est une personne d'abord, la parole. C'est Jésus. Hein. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà le programme. Hein. Prêche la parole, l'apôtre Paul disait, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Alors, reprends. Bon, prends à nouveau. Il y a donc un relâchement. Il y a un problème. Il y a une désobéissance, peut-être, jusque peut-être comme Pierre, un reniement. Nous voyons que Jésus, par un seul regard, l'a repris. Quand Jésus l'a regardé. Oh, ce regard de Jésus pour Pierre, le reniant. 3 ans avec Jésus pour en arriver là. Comme il a dû se sentir malheureux à l'époque, vous vous rendez compte ? Puis après la résurrection, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Le Seigneur va le reprendre. Mais il reprend avec quelle délicatesse, remarquez bien. Et quand Jésus dit m'aimes-tu, il emploie ce qu'il y a de plus élevé au niveau de l'amour. Hein, c'est l'agapé, hein, dans le texte grec, c'est l'agapé. Et Pierre lui répond... Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, mais il n'emploie pas le même mot, hein. Il emploie le mot philéo. Et une deuxième fois, Jésus va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et c'est toujours encore au niveau le plus élevé. Hein. Il va dire, hein, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, une deuxième fois, philéo. Et oui. Et la troisième fois, c'est là qu'on voit la délicatesse du Seigneur. Seigneur reprend le mot que Pierre a utilisé, philéo. Pierre, m'aimes-tu ? Et là, Pierre est tout attristé parce qu'il se rend compte de la dimension de ses sentiments humains qui n'allaient pas bien haut. Et il avait besoin, bien sûr, d'être rempli de l'amour du Seigneur. Il le reprend à nouveau, il le met sur les rails, il en fait un berger. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Gloire au Seigneur. Censure aussi. Ah, il y a la pensée coupée, là. Là, c'est pas facile, hein. Il y a une erreur doctrinale, il y a quelque chose de mauvais à ôter. On a l'exemple des Galates, par exemple, des Galates, hein. Les Galates qui revenaient aux œuvres de la loi, et l'apôtre souffre d'être obligé de censurer. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il dit, Galates 4.19 ? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il souffre. Et vous savez que le christianisme, c'est pas une religion. Hein. c'est la connaissance d'une personne. Et la connaissance de plus en plus intime d'une personne. Et l'enfantement, c'est la formation de Christ en nous. Et ça, hein, l'apôtre, il souffre les douleurs de l'enfantement pour les Galates. C'est bon de nous exhorter avec cette vision dans le but de ressembler davantage à notre Seigneur. Et exhorte. Alors, encourage, console, jusqu'à ce que le monde dise, voyez comme il s'aime. Hein? Là. Alors, la prière dans nos rassemblements est une source d'encouragement, de consolation. Le frère Barnabas, finalement, il intercède avec ses frères et pour ses frères. Et il intercède pour les perdus. Et un vrai Barnabas, il est attentif à la prière de son frère ou de sa sœur. Il a fait sienne la prière du frère et de la sœur. C'est comme si c'était la sienne. C'est la sienne. Hein? Et c'est important cela. Et c'est dans ce sens-là qu'elle va devenir une source aussi de consolation et d'encouragement. On voit dans Actes 4, 24, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Le lieu a tremblé, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Amen. On désire cette visitation-là. On a connu quelquefois dans le passé quelques visitations de l'Église, carrément de tout le monde en même temps. C'était merveilleux, mais on soupire. Seigneur, fais-nous grâce, visite-nous par ton Esprit tous. Là, comme nous sommes réunis, que le Seigneur nous visite, nous fasse grâce. Alors, c'est vrai qu'ils étaient tous ensemble dans l'intercession. Ils étaient tous à même cœur dans l'intercession. Et en fait, c'était le cri du cœur. Et c'est ça aussi la prière. Quelquefois, vous savez, on prie, « Oh Seigneur, bénis-toi, bénis-toi, bénis-toi. » Vous savez, la vraie prière qui monte vraiment jusqu'au cœur de Dieu, c'est celle qui est le cri du cœur. C'est davantage. David disait d'ailleurs, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ah, on demande quelquefois beaucoup de choses. Moi, le premier, hein, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Mais ça m'arrive, on dit quand même, bon, tu pries, c'est bien, mais c'est le cri du cœur qu'il faut faire monter sur le Seigneur. C'est ça qui l'attend. Hein. Dans la prière. Alors, il y a la prophétie qui est un moyen de grâce pour l'exhortation de Jésus-Christ. Barnabas, ça signifie aussi fils de prophétie. Hein. Il y a aussi cette pensée-là. Alors, 1 Corinthiens 14, 3 nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Voilà. Alors, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes baptisé dans l'esprit. Est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que chez vous, vous parlez abondamment en langue? Il y a un frère qui m'a dit ces jours-ci, il m'a dit, « Oh, on a eu un bon moment! J'ai même parlé en langue, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. » Dommage. Hein, c'est écrit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » C'est une source d'édification. Faut pas la négliger, hein. Que le Seigneur nous fasse grâce. La prophétie, c'est pas le coup de bâton, hein. On est bien d'accord. Elle édifie, il y a une pensée de construire, d'établir dans la vérité, d'affermir dans la parole, de bâtir sur le fondement, d'enraciner dans la saine doctrine. Elle exhorte, bien sûr, elle console. C'est un encouragement à persévérer, à écouter la voix de Dieu. Elle console, littéralement, elle réconforte, elle donne de la force. Au cœur lassé, elle apporte la parole qui soulage le cœur blessé. C'est pas le don d'assommer. Hein. Quelquefois, certains l'ont utilisé, mais elle peut aussi dévoiler les secrets du cœur. Hein, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, 24. Alors, les chants, ils nous aident à louer le Seigneur, c'est vrai, les chants. Mais ils sont aussi des moyens d'instruction et d'exhortation. Ils sont pas là pour nous distraire, pour nous défouler, on n'est pas là pour faire du musical ou garnir les réunions. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur tout ça. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il me semble, dans l'esprit de certains, une petite déviation. Parce que quand un frère prie, loue le Seigneur, je m'associe avec lui. Sa louange, c'est la mienne. C'est la louange. Et pour certains, la louange, c'est seulement chanter. Alors, quand c'est comme ça, il y a un problème, quoi. Je crois qu'il faut bien préciser, qu'il faudra arriver à préciser dans les églises que la louange, c'est pas seulement chanter. C'est aussi quand un cœur s'exprime, conduit par l'esprit. Hein, il fait monter sa louange vers le Seigneur, et quand on est ensemble, c'est la louange du frère, mais c'est la nôtre. C'est la louange de l'église, c'est la louange du groupe qui est rassemblé. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Ah bien sûr, il y a des chants de louange, c'est bien, faut louer le Seigneur. D'ailleurs, en ce qui concerne le culte de la Nouvelle Alliance, certains ont peut-être oublié ce passage, mais bon, il est quand même là. Hein. L'apôtre a donné quelques directives inspirées par l'Esprit. Il va dire que faire, donc frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut chanter qu'un cantique, c'est pas ça le problème, hein. On comprend bien, mais il y a la place pour les chants. Mais les chants ne vont pas prendre toute la place, on est bien d'accord. Hein, c'est dans ce sens-là. Et regardez la simplicité du culte de la Nouvelle Alliance. On n'est plus là dans les fêtes d'Israël ou choses comme ça. Une mise en scène. On est dans la simplicité. Pourquoi on est dans la simplicité? Parce que le Fils de Dieu est venu dans la simplicité, comme un simple homme. Il s'est élevé comme une faible plante. Hein? Vous vous rendez compte? Et notre Seigneur est venu dans la plus grande des simplicités. On est appelé à lui rendre un culte qui soit simple, hein? qui le glorifie. Alors, instruisez-vous par les chants. Il est nécessaire, bien sûr, ça veut dire qu'il faut être attentif quand même à ce qu'on chante. Moi j'ai remarqué, bon, ça m'est souvent arrivé de diriger les chants dans les églises, etc., dans le passé. Mais, et je faisais remarquer souvent d'ailleurs aux frères et sœurs ce qu'ils avaient chanté ou ce qu'ils allaient chanter. Quelquefois il y a des choses magnifiques, hein, c'est sûr, et que nous avons besoin de les réaliser. C'est important. Alors ces chants, ils contiennent, il y a beaucoup de chants quand même qui contiennent un enseignement, une instruction. Moi je remarque que Jésus a chanté aussi. Alors aujourd'hui, il y a des chants qui ont 100 ans. Hein, et ils vous disent, oh, tu chantes des chants ringards. Ah, il dit, bon, le Seigneur Jésus a chanté des chants ringards, il avait 900 ans, presque 1000 ans, c'était les cantiques de David. Vous vous rendez compte? Alors c'est bon de chanter des chants nouveaux, hein, je suis d'accord avec vous, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ne méprisons pas ce qui a été inspiré par l'Esprit dans les temps passés.
Oui.
Quelquefois, il y a 100 ans peut-être, mais oui. Si ça a été inspiré par l'Esprit, est-ce que je dois le jeter aux orties? Je pense qu'on a besoin de tout cet équilibre.
Oui.
Que le Seigneur nous fasse grâce en tout ça. On sait bien que la musique, c'est bien la musique, c'est important, hein, c'est le support des chants. Mais la musique, elle ne touche que l'âme, hein. Il faut que nous en soyons pleinement conscients. La musique ne touchera jamais l'esprit. Exhortez-vous. On peut y trouver aussi une consolation, un encouragement dans les chants. Et d'ailleurs, là, dans ce mot exhorter, c'est nouteto. C'est un autre mot dans le grec. Hein. Il y a en plus, là, une pensée d'avertissement. Dans les chants, il y a des chants qui nous avertissent, qui nous préviennent aussi. Les chants sont porteurs d'un message qui s'est appelé à chanter dans nos cœurs. À chanter dans nos cœurs, pas seulement chanter avec nos cordes vocales, Bon, vous savez tout ça, hein. Moi je vous apprends rien, je n'ai pas l'impression de vous apprendre quelque chose, simplement de vous le rappeler. Hein. Alors des cantiques spirituels, le grec c'est pneumatikos. Alors, ça veut dire qu'il y a du souffle dedans. Hein? Des chants inspirés par l'esprit, que le Seigneur nous fasse grâce, des chants qui ont une onction. Les enfants de Dieu sont appelés à s'exhorter aussi, réciproquement, bien sûr. Hébreux 3.13, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Littéralement, tant que l'aujourd'hui est proclamé, il faut nous avertir les uns les autres. Et nous avons besoin pour cela d'humilité. Nous avons besoin d'humilité. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin d'être averti, si je déraille un petit peu. Vous avez besoin d'encouragement, hein, vous aussi. Alors, il ne s'agit pas de mettre le nez dans les affaires des autres, on est bien d'accord, on l'a lu tout à l'heure d'ailleurs, ce texte. Non, il s'agit bien sûr, il y a des choses qui ne nous regardent pas, mais nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, à nous inquiéter avec tact, à nous intéresser aux problèmes, aux difficultés des frères et sœurs, à prier avec eux, à prier chez nous avec précision, et encore pour cela, faut-il être au courant des difficultés. On a connu malheureusement des frères et sœurs qui ne voulaient rien dire de leurs difficultés. Moi je connais, j'ai connu un cas là, et ils nous disaient, ces braves frères et sœurs, oh priez pour nous, ça va pas, mais c'est tout, ça n'est pas. Et un jour ils sont venus nous dire, notre fille est morte. Bon, ils auraient, je ne sais pas, ça sera peut-être arrivé quand même, je ne sais pas, je ne connais pas la volonté de Dieu pour cette fille-là, mais quand même, on aurait prié pour elle, on aurait intercédé pour cette fille, on aurait demandé la grâce, mais on ne savait rien. Vous savez qu'ils avaient des difficultés, mais on ne savait pas. Nous avons besoin de partager nos difficultés, les porter les uns les autres, hein. Pas les porter tout seul, c'est trop lourd. Et puis de venir tout déposer au pied du Seigneur ensemble. Ensemble. Alors les maux de la chair, c'est vrai, la fierté, l'orgueil, l'individualisme, le manque d'humilité, le manque de simplicité, tout ça, ça nous empêche de nous encourager réellement, réciproquement. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin les uns les autres. Regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes, ça c'est la vraie humilité, c'est pas toujours facile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive, le Seigneur est capable de nous aider dans ce domaine. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, si nous nous considérons meilleurs, nous avons des problèmes, il faut nous placer au pied du Seigneur et nous humilier. Alors nous avons besoin de nous exhorter nous-mêmes. Ah oui, parce qu'on n'est pas toujours avec les frères et sœurs. Hein, quelquefois, dans les journées, c'est pas toujours facile, même la nuit. C'est David qui disait, psaume 16, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Il y a une pensée là, m'exhorte, c'est une pensée d'avertissement, de se corriger, de se reprendre aussi. Hein. Les frères et sœurs ne sont pas toujours là, David savait s'encourager même la nuit, pas si vous avez des insomnies, mais pensez au Seigneur Jésus. Pendant, si vous avez une insomnie, hein, et encouragez-vous. Hein, en le contemplant lui, en lui parlant. Amen, que le Seigneur nous aide. Et puis, David, il a connu bien des problèmes. Regardez, à Siglag, là, quand des Amalécites sont venus, ils ont emmené tout le monde, les femmes, les enfants, il n'y avait plus rien. Quelle catastrophe, le peuple, il parlait de le lapider. Ses amis, ceux qui étaient avec lui, hein, pas ses ennemis, ça. Ses amis pensaient de le lapider. Tout le monde était dans l'amertume. Mais il est écrit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es un peu découragé, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Alors, comment s'exhorter? Alors, il y a toutes les mauvaises, les mauvaises façons de faire. Hein. La flatterie, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Allez, c'est ça. le corbeau et le renard. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oui, ça c'est pas bon, hein, la flatterie. La brutalité, oh bah, si t'avais la foi, si t'avais la foi, tu serais guéri, t'auras pas de problème. Ah ouais, bon, bien sûr, hein. Bon, certainement que tu as péché, il n'y a pas de problème, c'est arrivé, hein. Alors ça, c'est la mauvaise façon, hein. Être sûr de décourager le frère au lieu de l'encourager, c'est ce qu'on appelle la brutalité. Moi, j'ai vu de l'autre côté de la Méditerranée des indigènes qui tapaient à coups redoublés sur des ânes qui ne voulaient pas avancer. Les brebis du Seigneur, ce n'est pas des ânes, c'est des brebis. Hein, ils n'ont pas besoin d'être frappés comme ça. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Puis il y a la maladresse, bien sûr. Oh, t'as cette maladie-là. Oh, mon grand-père est mort comme ça. C'est bon, c'est toujours dans ça. Ah ben bien sûr. Puis il y a les civilités, peut-être c'est bon d'être poli, hein. Ah oui, c'est bien. Mais quand le cœur participe pas, c'est terriblement froid. Alors si nous visitons un frère, une sœur dans la difficulté, nous le savons bien, hein, il faut laisser nos problèmes à la porte. Jamais parler trop de nos problèmes. Écoutez beaucoup, parlez moins. Demandez au Seigneur qui mette sur notre cœur, par son esprit, une parole d'encouragement, une parole de consolation. Et je pense que c'est bon avant de rencontrer un frère, une sœur en difficulté, c'est de prier et demander la grâce de Dieu pour être un Barnabas auprès d'elle, auprès de lui. Alors il y a une bonne manière, bien sûr, c'est avec amour. Amen. Hein, sans quoi nous ne sommes rien, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alors certains disent, oh bah oui, ça le fera bon. Je vais faire des efforts, je vais l'aimer. Bon bah ben, je vais vous dire, ça vaut pas grand chose. L'agapé, c'est pas le résultat d'un effort. C'est un déversement, l'agapé, l'amour véritable, c'est un déversement, c'est un débordement du cœur. Hein, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est certain que mon cœur est petit par rapport à l'amour de Dieu qui est réellement sa nature. Et si le Saint-Esprit verse dans mon cœur, il va verser quoi? Hein, c'est ce qui est écrit. Une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Donc ce cœur qui va recevoir cet amour divin, ça va déborder. Ça va déborder sur les amis, ça va déborder sur les ennemis, sur les frères et sœurs. C'est ça l'amour de Dieu. C'est une toute autre dimension. On est bien d'accord que nos sentiments humains. Nous avons lu que les Thessaloniciens avaient appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. La charité, c'est le lien de la perfection, c'est le ciment, en quelque sorte, qui unit les pierres. Que le Seigneur nous aide. Le Consolateur a été envoyé, c'est vrai, pour nous fortifier, pour nous conduire, pour nous éclairer. Il veut nous aider à être des Barnabas, des fils, des filles d'exhortation, qui exhortent et qui se laissent exhortés par leurs frères et leurs sœurs. Et quelquefois, vous savez, j'ai quand même remarqué qu'il y a des frères, que des frères et sœurs, on pensait, bon, ils ont une petite vie spirituelle vraiment unie, et quelquefois ces frères et sœurs-là, ils vous disent quelque chose, ils vous font du bien, si vous voulez bien les écouter, quelquefois, le Seigneur va servir d'eux, et quelquefois il se sert aussi d'un inconverti, quelquefois pour nous encourager, quand il n'y a personne d'autre dans le secteur, que le Seigneur nous aide. Hein? La parole de Dieu est équilibrée. Hein. L'apôtre dit au jeune serviteur Timothée, ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Bon, je vais bientôt terminer, je vais quand même pas vous parler trop longtemps. Mais quelques exemples d'encouragement. Hein, nous encourager, mais ce n'est pas obligatoirement que par des paroles. Hein. C'est pas par des paroles. Je voudrais vous donner une petite anecdote. Là. Il y avait un homme, vous l'avez peut-être déjà entendu, un homme paralysé qui avait été invité à un repas, à un banquet. Et puis il y avait un aveugle aussi qui avait été aussi invité. Il ne pouvait y aller ni l'un ni l'autre. C'est pas possible, l'aveugle, il voyait pas, le paralysé pouvait pas marcher. Mais le paralysé, il avait de bons yeux, et l'aveugle, il avait de bonnes jambes, il a pris le paralysé sur son dos, puis ils sont allés. Et c'est aussi comme ça qu'on s'encourage mutuellement, hein, par des actions, et ça nous permet, bien sûr, de connaître la bénédiction du Seigneur. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Voilà. Alors, un bel exemple, c'est en 1 Samuel 23, c'est quand Jonathan, fils de Saül, se lève et va vers David dans la forêt. Il est écrit, il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas, tu régneras sur Israël. » Eh bien, vous savez ce que j'ai besoin d'entendre, moi ? Mon frère, ne crains rien. La main de l'adversaire ne t'atteindra pas, tu régneras avec Christ.
Amen.
Moi, j'ai besoin d'entendre ça. Mais vous aussi.
Oui, bien sûr.
Vous aussi. Mon frère, ma soeur, le diable, avec ses ruses, ne t'atteindra pas. Hein ? Mais tu régneras avec Christ. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Un autre vite fait, oui, c'est ça, Philippiens 4, 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tichède d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Bon, il y a deux sœurs qui s'étaient chipotées, quoi. Bon, il ne s'agissait pas de jeter de l'huile sur le feu, les bousculer, mais de les aider à faire la paix. Et c'est à cela aussi que nous sommes appelés, nous sommes des enfants de paix. Alors, il y a 2 Corinthiens 5, 20 aussi. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Encouragez ceux qui ne sont pas au Seigneur à venir à la croix. C'est notre mission première, hein, vous ne pouvez jamais oublier. Hein. Seigneur nous a donné cette mission, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Hein. Être un Barnabas dans ce monde, c'est ne pas avoir peur de la moquerie. Parce qu'il y a des gens, quand on leur apporte, leur parle du Seigneur, commence à rigoler. Mais il ne faut pas avoir peur de la moquerie. C'est risquer sa vie dans certains pays que de témoigner. Nous, on risque la moquerie. Bon, Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Hein. Alors, on peut supporter ça. Hein. A-t-on le droit de faire un si grand salut, de se contenter de regarder ceux qui courent vers l'enfer, sans rien dire, sans rien faire, vers la condamnation éternelle? On est entouré de tous ces gens-là. Oh, j'y pense souvent. C'est vrai, je m'interroge sur tout ça. Que le Seigneur nous aide, nous éclaire, nous donne de savoir leur apporter cette parole qui vient de l'Esprit, qui touche leur cœur, qui les amène à considérer leur voie et à se remettre en question, à venir à la croix. Jésus revient bientôt, et comme il est écrit dans Hébreux 10, 25, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Jésus revient chercher. Les bouillants? Non. Qui vient chercher? Étienne? Ah ben non, c'est écrit, c'est écrit qu'il va les vomir de sa bouche. Le Seigneur n'est pas menteur, hein. Alors, s'il ne prend pas les tiennes, il prend qui?
Les bouillants. Dans son église.
L'heure n'est pas à la tiédeur. Hein.
La tiédeur, non.
Hein, c'est trop dangereux. Je crois, encourageons-nous les uns les autres à remplir nos lampes d'huile et à avoir des réserves parce que le cri, voici l'époux, il va très bientôt retentir. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes frères et sœurs.
Amen.
Amen.